Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, nous sommes en direct des studios de Radio Galaxy et c'est l'heure de votre émission La Bougeotte, présentée par Christian Cayol. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous et à toutes.
Alors, aujourd'hui, tu nous amènes où ?
Mais aujourd'hui, c'est un coin surprenant et que je ne m'attendais pas à trouver aussi riche. Je vous amène dans la région du Maine, c'est-à-dire autour du Mans. Donc, cette région du Maine, qu'est-ce qu'on en connaît du Mans ? Alors bon, les rillettes, les 24 heures.
Voilà, j'ai envie de dire, on connaît ce que tu présentes au début et à la fin de ta vidéo, c'est le circuit.
Exactement, voilà, c'est ça, ce qui nous vient en premier, les 24 heures du Mans. Et quoi d'autre ? Avant de partir une semaine par là-bas, j'en aurais été incapable de dire quoi que ce soit. Par contre, après l'émission, vous en saurez davantage.
Et après avoir vu la vidéo, effectivement aussi, parce que c'est assez impressionnant et riche tout ce qu'il y a.
Ah, c'est riche, c'est varié. Ouais, ouais, donc écoutez l'émission jusqu'au bout. Ensuite, allez, jetez-vous sur ma vidéo.
Donc, rappelle le...
Sur le site de Radio Galaxy 31 et sur le site, mon site perso, Rando VTT Vidéo. Et la vidéo s'appelle... Et la bougeotte s'appelle la manie du Maine, parce que c'est, on pourrait prendre la manie de trouver trop de plaisir et d'y revenir. Donc voilà. Alors on va commencer par la visite d'un château. Lors de précédentes émissions, notamment une émission sur le Berry, on a déjà abordé le thème de l'alchimie, notamment à Bourges avec Jacques Coeur. Eh bien, si Bourges était la capitale, on pourrait dire que Notre-Dame de Paris, ça serait le vaisseau-mère. Et puis le château de Plessis-Bourré, où je vous amène maintenant, ça serait la bibliothèque. Ah. Alors le plafond de la salle des gardes est peint de 24 caissons qui représentent les conseils que les alchimistes doivent suivre. Les clés de l'alchimie sont là. Il y a un désir de transmission pour l'avenir. Hélas, le langage codé, nous en avons perdu la notice.
Ah mince.
Eh oui, et mince. Alors, parmi les alchimistes les plus connus, citons Philippe le Bel, roi de France, qui avait à son service toute une équipe de chercheurs. Quelque temps plus tard, un illustre inconnu, Nicolas Flamel, au XIVe siècle, libraire à Paris. Il devint très riche, d'un seul coup, et il a laissé des inscriptions mystérieuses, secrètes, sur la façade de sa maison, une des plus vieilles maisons de Paris. Quelques siècles plus tard, au XVIIe siècle, le comte de Saint-Germain, il a mis à ses pieds le roi Louis XV, toute la cour. Il est brillant, peintre, musicien. Il parle 10 langues. Ses habits sont couverts de pierres précieuses. Il devient très proche du roi, qui lui accorde de nombreux privilèges. Un siècle après sa mort, à l'ouverture de son tombeau est vide. Ça ne fait que aller dans le sens mystérieux de la légende de son immortalité. Alors, les recherches sur la pierre philosophale et la transmutation des métaux, ce que cherchaient les alchimistes, ont permis au cours des manipulations des découvertes importantes et inattendues. La térébenthine, l'acide nitrique, l'acétone, l'acide chlorhydrique, le phosphore, l'alcool, la faïence, tout ça a été découvert empiriquement par des essais. Donc, le château de Plessis-Bourré, c'est la première de nos étapes, il est entouré d'eau et il présente à la fois des aspects médiévaux avec un pont-levis, des douves, des tours, mais aussi renaissance, de belles pièces décorées. Il a servi de décor de rêve pour de nombreux films. On le voit très souvent. Autre château, celui de Courtenvaux. Alors là, il n'y a pas une histoire, je ne vais pas lancer dans l'histoire. Juste pour la photo, ils se mirent dans un étang d'eau, un étang juste à ses pieds, de quoi faire une très très belle photo. Et puis il a un parc avec de magnifiques gigantesques séquoias. Mais de tous, si je ne devais en retenir qu'un seul, je retiendrai davantage pour la leçon d'histoire à ciel ouvert qu'il va nous proposer, le château de la Motte de la Haie-Joulin à Saint-Sylvain-d'Anjou. C'est le seul et l'unique en France. La reconstitution identique d'un site défensif ayant apparu à la fin du 8e siècle jusqu'au 12e siècle. C'est ce qu'on appelle un château à motte. C'est-à-dire que la première des choses, il faut creuser des douves pour faire passer de l'eau. Et cette terre, on la met en tas, on fait une motte. Il est construit en bois et en terre. la terre et le bois, ça se conserve très mal. Les châteaux à mottes, pratiquement, il n'y en a plus. Il reste les mottes.
Oui, les mottes, ouais.
On en connaît autour de chez nous, là, ouais, par ici.
Ce qu'on appelle les mottes castrales.
Les mottes castrales.
Voilà, on est d'accord.
Voilà. Et donc, il est construit en bois et en terre. Dans l'histoire des châteaux forts, en fait, c'est la première des étapes. C'est l'ancêtre du château en pierre. Parce que c'était beaucoup moins onéreux de bâtir ce château en terre et en bois que de la pierre qu'il fallait faire venir.
On est d'accord. Et l'avantage de ta vidéo, c'est que tu l'as vraiment bien filmé. Et c'est vrai qu'on se rend compte réellement ce que c'est quand on dit une motte féodale. Oui, on se rend compte réellement ce que c'est parce que là, on la voit entière. C'est-à-dire la motte plus le château. Oui. Alors que chez nous, on voit que la motte. Alors voilà, c'est l'avantage.
Oui, oui. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc autour de l'an 1000, il y avait 300 mottes castrales en moyenne par département.
Ouais, c'est énorme.
Ça voulait dire qu'il y avait des petits châtelains un peu partout. Il y avait le gros seigneur de la région qui déléguait pour contrôler un petit peu tout ce qui se passait, ses pouvoirs à d'autres seigneurs plus petits, suzerains, un peu partout dans le département. Alors ces châteaux, ils se composaient généralement de deux parties. Ce qu'on appelle la motte castrale, ancêtre du donjon, c'est constitué d'une tour carrée faite de rondelles de bois. Ce n'est pas du tout une habitation à ce moment-là. Elle sert d'entrepôt. Elle est visible de loin et elle a un rôle symbolique dissuasif d'affirmer la puissance du seigneur. Elle était aussi très utile pour grimper sur la motte en hauteur pour dépasser la hauteur de la palissade. Sinon, vous étiez à l'intérieur de la palissade et vous ne voyiez pas ce qu'il y avait dehors. Donc rien que pour ça. En contrebas de ce donjon, la basse-cour, un lieu de vie de la communauté qui comprenait le château, le logis seigneurial, une bâtisse la plus près du château, du donjon, pardon. Un bâtiment plus modeste réservé aux chevaliers, le logis des domestiques, du bétail, une cuisine en torchis composée d'un four et d'une foyère, mais aussi une grange de stockage, des outils, du foin, des bêtes, une forge où on fabriquait les armes, les équipements d'hommes d'armes, des bijoux en étain, et d'autres ateliers d'artisans du bois et des poteries. Cette basse-cour, entièrement ceinturée d'un rempart composé de pieux et de bois, et à l'extérieur de tout ça, le jardin. On y cultive des plantes médicinales, des plantes tinctoriales pour les teintures, des plantes aromatiques et des condiments. Alors, si vous passez dans le coin de Saint-Sylvain d'Anjou, ne ratez pas cette leçon d'histoire. Super intéressante et unique en France. Alors j'en parle encore plus parce que nous nous y sommes trouvés hors saison au mois de mars. Et bien sûr, c'était fermé. Par chance, le responsable était à l'intérieur. Et je l'ai appelé à travers les palissades. Et il nous a fait gentiment une visite privée, mais très détaillée. Alors si vous y passez en pleine saison, vous trouverez le responsable, et puis toute son équipe, habillée comme en l'an 1000, avec les habits, et ils y vivent carrément, avec les enfants qui se régalent à jouer un décalage dans l'histoire. Voilà. Donc une superbe leçon d'histoire. Allez-y, regardez ma vidéo, vous verrez droner ce château et l'intérieur aussi. Donc voilà.
Leçon d'histoire vivante.
Oui, exactement. Je n'oublie pas la commanderie templière d'Arville, fondée au XIIe siècle. Elle reste, par l'importance des bâtiments existants, un ensemble unique des mieux conservés en France. Alors, encore une fois ici, on fait un retour sur cette période des croisades vers Jérusalem et des pèlerinages en Terre Sainte. L'insécurité du voyage reste à l'époque très grande. Des chevaliers français créent en 1118 une milice religieuse pour assurer la protection. Ce sont des moines soldats qui se regroupent à l'intérieur de commanderies, ici à Arville, sur un domaine agricole de 1000 hectares. Ce sera un centre de recrutement, de formation militaire et un milieu de vie religieuse pour les chevaliers en attente du départ. Tout ça, ça a duré jusqu'en 1307, date à laquelle les chevaliers templiers seront arrêtés sur l'ordre de Philippe IV le Bel, et les principaux termineront sur le bûcher. Fin des Templiers. Je vais vous parler maintenant de mégalithes, parce que bon, je vous dis que c'est très varié ce coin, on ne connaît pas.
Il y a des mégalithes.
Des châteaux. et des mégalithes, avec toutes leurs légendes. La première, c'est celle des pierres tournantes. Sur ma vidéo, on voit quelques pierres, on ne comprend pas bien pourquoi je les ai filmées. Elles ne sont pas énormes, mais bon, il y en a 8. Elles font entre 10 et 12 tonnes, et c'est à Écomois. La nuit tombée, ces mégalithes se soulèvent, ils tournent dans les airs. Il ne fallait surtout pas y toucher la journée, hein, parce qu'ils fermaient une réserve d'eau. Et si on les sortait, ça engloutirait le village.
Oula !
Ça fait peur, hein ?
Ah oui !
Bon, pour la création de l'autoroute, ils ont été déplacés.
Ah merde !
Ils ont été déplacés, et là maintenant, ils sont alignés dans un site qui leur est réservé, protégé un petit peu. Voilà, la légende des pierres tournantes avec moi. Vous irez aussi certainement voir la pierre des Herves à Sainte-Suzanne. C'est un des mégalithes les plus connus de la Mayenne et certainement un des plus anciens, 5000 ans avant Jésus-Christ. Des travaux de fouilles dans les années 1980, 83 exactement, ont fait disparaître le tumulus de pierre, cairn qu'on appelle, et qui faisait environ 10 mètres par 6, et il englobait totalement la chambre funéraire, et c'est actuellement la seule chose qui est visible. C'est les gros rochers qui forment ce qu'on a l'habitude de dire, c'est le dolmen, ouais. Mais il manque tout le cairn par-dessus. À l'intérieur, il a été retrouvé des fragments d'une quinzaine d'individus. Et puis, je vous propose le menhir de la Hune, à Bazougères. Il fait plus de 36 tonnes et presque 6 mètres de hauteur. Il a été trouvé à plat et non pas debout. Maintenant, il est quillé. Et il était couché et ça servait de polissoir pour affûter les armes. Et ensuite, ça c'est surprenant, des sites proto-historiques gallo-romains ou celtes parfois. Et tout d'abord, je vais vous parler du site proto-historique de Chéré, à Aubigné-Racan. Au début, c'était une nécropole du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Il y avait des mégalithes, des tumuli, des sépultures et des dépôts d'armes rituelles. Puis, un complexe gallo-romain, fin du 1er au début du 2e siècle, qui comprenait un théâtre antique de 3000 places, deux temples, des thermes et un aqueduc. Regardez ma vidéo, j'ai droné dessus.
Oui, on le voit bien.
Ouais. On le voit bien. Hein. Bon, il reste, c'est un peu à fleur de terre, ça ne dépasse pas beaucoup, mais on voit très bien le théâtre. Les thermes, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, on voit qu'il y a des bâtis, quoi.
Oui, et l'avantage du drone qui le survole, on voit bien toute la forme du...
Par exemple, le théâtre, on voit très bien sa forme.
Voilà, tout à fait.
3000 places, voilà.
Même la partie enfouie, on la voit, en fait.
Donc ça, c'est le site de Chéré. Allons maintenant à la Tour aux Fées, un sanctuaire gallo-romain de Mars et Mulot. Alors Mars et Mulot, ce sont deux divinités. Mars, bien sûr, tout le monde connaît, divinité romaine, mais Mulot, elle est moins connue. C'est une divinité celte, gauloise. Là, on est à Alonne, très près de la ville du Mans. Ont été découverts les vestiges d'un temple romain hexagonal du 1er siècle après Jésus-Christ, à la gloire de Mars. On ne voit pas grand-chose, on devine plus qu'on ne voit, hein, mais... Il y a des panneaux didactiques qui expliquent, bon, voilà, il faut s'en contenter. Et puis, ce temple romain, il a été bâti sur un site gaulois qui était consacré donc à la divinité Mulot, qui a été occupé depuis la proto-histoire, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'écriture. Parlons maintenant d'un autre site, le Rubricaire à Sainte-Gemme-le-Robert. Alors là, on a des vestiges quand même importants. C'est vallonné. En drone, on voit encore mieux. C'est vrai que les photos prises d'en bas. Ce sont les vestiges d'une station gallo-romaine, une sorte de forteresse qui contrôlait la campagne et qui contrôlait la voie allant de Jublain, on va en parler, de Jublain au Mans. Son rôle probable, c'était surtout de protéger les richesses qui étaient accumulées. Autour, il y avait beaucoup de mines, en particulier d'argent et d'autres choses aussi. Et donc, il fallait protéger toutes ces richesses et c'était fait dans ce rubricaire à Sainte-Gemme-le-Robert. Je vous parlais de la route qui va de Jublain au Mans, parlons-en. Parlons maintenant de cette cité, une cité romaine devenue capitale en plein cœur d'un pays gaulois. Ça s'est passé dans la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle a été construite sur un sanctuaire celte, elle aussi. On y retrouve bien entendu un vaste théâtre en gradin, des thermes assez sophistiqués qui se trouvent actuellement dans les sous-sols, dans la crypte de l'église du village. C'est organisé, c'est bien fait. Un forum, un temple dédié à un culte, bien sûr, et une forteresse. Alors cette forteresse, certainement, était là pour protéger l'impôt se payait souvent en nature. Et donc c'était l'endroit de stockage et de protection de l'impôt. Les murs sont très importants, cette forteresse, très bien conservée. Actuellement, on voit beaucoup de choses, mais seul un tiers des vestiges ont été mis à jour. Imaginez tout ce qui
c'est
reste.
C'est énorme.
C'est énorme. Hein. C'est une des cités romaines les mieux conservées de France. Et c'était là aussi un véritable livre d'histoire à ciel ouvert.
Et on rappelle, on est sur la région du Mans.
On est sur la région du Mans.
Ah, ça, voilà. C'est impressionnant.
Eh oui. Il n'y a pas que Narbonne ou Arles ou Nîmes.
Voilà, ou qui ont des cités romaines.
Voilà, exactement. On change complètement quand je vous dis que c'est très varié. On a vu des châteaux, on a parlé des châteaux à Motte, on a parlé des mégalithes, on a parlé des camps romains, les grottes de Rochefort à Saint-Pierre-sur-Èvre. Ça s'appelle les grottes de Solges. Il y en a une quinzaine sur un site préhistorique connu pour son occupation humaine depuis le Paléolithique supérieur. C'est-à-dire on est entre 45 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. On a trouvé des pointes de silex, de grès. Et donc, une occupation certainement magdalénienne, à une époque où le froid, où on avait la pleine glaciation. Parlons maintenant de villages remarquables. Sainte-Suzanne, une cité qui fait partie des plus beaux villages de France. Elle possède une histoire et une préhistoire très riche. Alors, autour de Sainte-Suzanne, des grottes qui prouvent la présence humaine dès 30 000 ans. Le dolmen des Herves, on en a parlé, là, lui, c'est 5 000 ans. Mais c'est surtout l'âge féodal qui va retenir notre attention. Au XIe siècle, le seigneur engage une lutte contre Guillaume le Conquérant, qui installe un camp fortement armé à 800 mètres du château. Le siège dure 4 ans. La guerre s'enlise. Heureusement pour les villageois, un souterrain, pas connu de Guillaume le Conquérant, permettait d'aller du château, donc du village, jusqu'à un moulin. Ce qui fait que l'approvisionnement se faisait régulièrement et le siège ne redonnait rien.
Et oui.
Et voilà. C'est la seule place que Guillaume le Conquérant n'a jamais pu prendre. Plus tard, au début de la guerre de Cent Ans, la cité reste aux mains des Français et finit par tomber en 1425 et ensuite elle restera jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, pendant 14 années, sous le contrôle des Anglais. À ce moment-là, la région est ravagée, les remparts sont détruits. Au XVIe siècle, Sainte-Suzanne devient cité royale de Navarre par Henri II de Navarre, puis Henri IV, et la reine Margot, son épouse, et qui la détiendra pendant 10 ans. En 1343, à l'époque où les Anglais étaient maîtres de plus de la moitié de la France, les ressources du trésor français étaient épuisées. Philippe VI de Valois avait fixé l'impôt sur le sel, la gabelle. Au XVIIIe siècle, Sainte-Suzanne devient grenier à sel, accompagné d'un tribunal chargé de poursuivre les fraudes et de lutter surtout contre la contrebande, en particulier avec la Bretagne, puisque en Bretagne, le commerce du sel était libre, non grévé d'impôts. À la Révolution, le grenier a été pillé. Actuellement, que reste-t-il? Eh bien, il reste une enceinte de remparts, une double enceinte, des bouts. Le château, une partie du donjon, le grand moulin et un musée d'histoire. Et aussi de nombreuses ruelles médiévales piétonnes entre des maisons de pierre. Un beau village à voir. C'est Sainte-Suzanne. Deuxième village, Asnières-sur-Vègre. C'est une petite cité de caractère, un des plus beaux villages de France. Il faut voir son église et les peintures murales du 12e, le manoir de la cour, qui est du 13e, et qui est à la rue de Trompe-Souris. Ça m'a fait rigoler ça.
Trompe-Souris.
Rue Trompe-Souris. Et de nombreuses vieilles maisons du 15e, un lavoir et un vieux pont. Une belle image avec des algues qui bougent dans l'eau.
D'accord.
Sur ma vidéo.
Oui,
exactement. Un village pour peindre, voilà, oui. Pour faire des aquarelles.
Alors, je présume que Nadine a fait son aquarelle, mais on y reviendra.
Oui.
Par contre, rappelle le nom du village.
Village Asnières-sur-Vègre.
Voilà.
Alors, encore un site varié, une abbaye. L'abbaye royale de Lépau. Bérengère de Navarre, personne ne connaît. Elle est née dans les Pyrénées, en Navarre bien sûr, 1163. Elle épouse Richard Cœur de Lion, elle en connaît un peu plus.
Voilà.
Voilà. L'épouse inconnue de Richard Cœur de Lion, qui est morte sans descendance. En l'épousant, elle devient reine d'Angleterre, de Chypre, duchesse de Normandie, comtesse d'Anjou et du Maine, rien que ça. Elle sera veuve en 1199. Il ne s'occupe pas trop de la gente féminine, hein. Il n'était pas très branché.
Ouais.
Donc il l'a un peu délaissé. et il n'a pas eu de descendance. Donc Bérengère de Navarre, elle se lance dans la construction d'une abbaye en 1229 pour accueillir son corps à sa mort. On ne va pas l'enterrer n'importe où.
Dans une abbaye.
Et donc elle se lance à cette construction. Et elle décède l'année après. Son gisant, actuellement, il se trouve dans la salle capitulaire. Quand même, la reine Elisabeth II d'Angleterre, elle est venue s'y incliner dessus en 1984. Rien que ça aussi, quand même.
Ouais.
L'abbaye sera incendiée pendant la guerre de Cent Ans. Elle sera reconstruite, vendue comme ferme à la Révolution. Elle sombre dans l'oubli. Puis, elle sera transformée successivement en tapisserie, en grange, atelier de menuiserie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sera le garage des camions de l'armée allemande. Actuellement propriété du département, depuis une cinquantaine d'années, elle a la chance d'être, heureusement, restaurée et rendue réutilisable. À voir. Un trésor inattendu maintenant. Dans les artistes décalés, un tourisme pas ordinaire. Je sais que ça te plaît.
Oui.
Voilà. Nous aussi, on aime beaucoup. On aime beaucoup les trouver, les chercher et donner envie d'y aller. Hein, parce que...
Oui, et pratiquement dans tes dernières vidéos, chaque fois, il y en a une.
Chaque fois. Oui. Ah. Bon, alors là, je vous propose le musée Robert Tatin. Robert Tatin, 1902-1983. Je vous invite à découvrir l'univers de ses œuvres, de cet artiste, qui pendant plus de 20 ans, il a profité de son lieu d'habitation pour laisser libre cours à son imagination. Attention, ça décoiffe.
Ouais, on le voit sur ta vidéo.
Alors, il décore son domaine de sculptures en ciment, un peu genre facteur cheval. Ainsi, en se promenant dans son parc, on peut découvrir des sculptures extraordinaires, avec son allée de géants, le dragon, qu'est-ce qu'il vient faire contre sa maison, tu sais pas.
Mais il est là.
Et puis aussi ses peintures, et puis ses motifs, tous ses motifs, on ne sait pas où on est là, hein. On ne sait pas si on est chez les Incas ou... Bon, aussi imaginatif que le facteur cheval, aussi débridé que les surréalistes, se promener dans son monde, c'est un moment insolite, rare, privilégié. Robert Tatin est un artiste inclassable, reconnu quand même par les plus grands, et qui laisse une œuvre fantastique. Alors, c'est à Cossé-le-Vivien. Encore un déjanté, ailleurs. C'est le village miniature de Gênes Chauffat. Il lui aura fallu 40 ans pour créer un village, le village de son enfance, dans son jardin. Une petite maison, un petit jardin, un petit bassin, et là, une centaine de personnages animés avec des moulins, avec je ne sais quoi. Tout fait de récupération et des centaines et des milliers d'heures de travail. Voilà. Village miniature de Gênes Chauffat. Pour terminer, les 24 heures du Mans. On ne peut pas aller là-bas sans aller au moins un passage obligé, même si on n'est pas fan, d'aller au musée des 24 heures du Mans. Alors c'est quand même une collection magnifique de bolides, depuis les tout premiers jusqu'au plus récent. On a les voitures de 2015 ou 2016 qui ont participé aux 24 heures du Mans. On les a. Mais on a aussi les toutes premières de 1800. Alors par contre, la visite du circuit, n'y allez pas, hein. C'est décevant. Hein. C'est pas le prix, 3,50 €. Mais pour ne pas voir grand-chose, pour déambuler dans des centaines de mètres en essayant de se rapprocher de la piste ou des stands, entendre que des moteurs rugissant au loin, mais ne rien voir. On croise des voitures, les camions, des engins de toutes sortes, mais ce sont ceux des bureaux, des intervenants. Et nous, on a la voiture qui est garée au Diable Vauvert, et voilà, on n'en retire rien. Alors c'est très décevant, c'est un mauvais plan.
D'accord, à savoir.
À savoir.
Mais par contre, notre bon plan sur ta vidéo, il me semble qu'à un moment donné, on voit une route qui traverse un lac, mais vraiment, une route à Rayon-Pacorette. C'est
oui.
Où ça ?
Là, on est à la confluence du Cher et du Loir. Il y a une crue phénoménale, des centaines d'hectares inondés, une petite route angoissante parce que... Il restait sur la route, une route de 5 ou 10 km, fermée à la circulation, mais bien sûr, on y va.
On y va, tu y vas, c'est pas pareil.
Il y avait encore sur la route les branchages, les herbes, comme quoi, pendant la nuit, ça avait été inondé, l'eau s'était retirée, elle était au ras de la route de chaque côté de part et d'autre. On est un peu angoissé parce qu'impossible de faire demi-tour pendant 10 km.
Hein. D'accord.
Voilà, okay. Mais bon, c'est impressionnant.
Voilà, et c'est vrai que donc on peut le voir sur ta vidéo, mais bon, cher auditeur, si vous allez sur place, vous ne le verrez plus.
Ah,
on est d'accord.
Mais ça peut arriver encore. Mais sur ma vidéo, on voit aussi certains ponts où l'eau est bien marron et qui crache beaucoup. Hein.
Oui,
voilà.
Et pour finir,
non, pas tout à fait finir.
Le VTT.
Deux mots
oui.
Sur le VTT. Alors ici, ne cherchez pas le relief, hein. C'est pas les Pyrénées, hein. C'est même pas le Gers. Hein.
Et c'est ce que j'allais dire, on voit aucune côte.
c'est plat comme la main. Et alors, c'est bizarre parce que parfois, on a l'impression de traverser la forêt des Landes. Exact. On a des chemins de sabline, des pinèdes, et puis de, voilà, une sabline de sable gris. Ouais, bof, bon, ça restera pas dans les annales, ça non plus. Mais bon, c'était sur place. Faut pas s'attendre à aller là-bas, à avoir le soleil de la Côte d'Azur, et puis les collines du Gers.
Et les cigales de...
voilà. Et puis pour terminer, bien sûr, un mot sur... l'œuvre de Nadine, son aquarelle. Et là, aquarelle pour varier un petit peu, elle avait fait notamment une aquarelle du château de Motte,
oui,
de la Haie-Joulin. Elle en avait fait d'autres, et puis elle avait fait les voitures. Mm. Bon, j'ai dit, allez, c'est quand même représentatif de...
Du Mans.
Voilà, du Mans. Donc, ouais. Les voitures sur le circuit. Et puis, le mois prochain, je vous emmène en Corrèze. Là aussi, vous connaissez la Corrèze? Oui, non? Eh bien, vous allez en découvrir beaucoup que vous ne connaissez pas.
D'accord, eh bien, alors au mois prochain et merci donc pour ce voyage découverte de notre France.
Allez,
notre belle France.
Au mois prochain pour la Corrèze.
Et on voyage où? On voyage en France.
Bougez en France, tout voilà. Le monde sait dire, je l'oubliais.
Et alors?
Il faut le garder.
C'est important.
Très bien.
Au revoir, ciao.
Allez, au revoir.